France Musique. C'est l'été sur France Musique. Les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Nina Simone avait été acceptée au Curtis Institute ? Philadelphie, 1951. Une jeune fille de Caroline du Nord s'apprête à vivre le jour le plus important de sa vie. Eunice Kathleen Wyman passe le concours du prestigieux Curtis Institute pour devenir pianiste professionnelle. Pour le concours, elle porte une robe de mousseline blanche avec un nœud en taffetas à la taille. Les cheveux d'Eunice sont courts, lisses et brillants, domptés par la laque et la gomme coiffante. Aucun bijou ni fard à paupières, c'est encore une enfant. Cela fait des mois que Nice prépare ce concours, toute seule, loin de sa famille. Parmi les 800 candidats, c'est vrai, elle est la seule candidate noire. Depuis toute petite, elle joue Bach, Chopin, mais aussi Debussy, le premier musicien blanc qui est, selon elle, assimilé le jazz dans sa musique. Voilà, c'est l'heure. Le piano a l'air immense face à elle. Nice installe la partition sur le pupitre, mais cela ne sert à rien car elle sait tout de mémoire. Tous les membres du jury sont blancs, mais qu'importe. Elle va réussir le concours d'entrée, elle n'a pas d'autre choix. La jeune musicienne est bien décidée à devenir la première pianiste noire de l'histoire. Minstrel de Claude Debussy par Christian Timmerman pour nous accompagner dans l'Uchronie d'aujourd'hui, rien moins qu'un prix Goncourt, l'écrivain Gilles Leroy qui vient de faire paraître un magnifique roman Requiem pour la jeune amie aux éditions Mercure de France. Mais nous vous invitons pour votre Nina Simone roman, superbe évocation de la chanteuse disponible en folio. Bonjour Gilles Leroy.
Bonjour.
Alors Gilles Leroy, tout d'abord, vous qui connaissez bien la vie de Nina Simone, est-ce que Nina a été acceptée au Curtis Institute de Philadelphie ?
Et non, elle a été recalée, ce qui est le drame de son existence. En fait, elle l'a présenté toujours comme le drame de son existence. Et elle a pensé de repasser l'année suivante, puis finalement elle a renoncé, trop humiliée je crois, elle était très orgueilleuse. Ou alors elle a été persuadée que c'était à cause de sa couleur de peau qu'on l'avait rejetée et que donc ça ne changerait rien de le repasser.
Mais elle s'était préparée pendant des semaines, voire des mois.
bah, pendant toute son existence jusqu'à ses 18 ans, en fait, parce que elle a commencé à faire du piano à 3 ans. Hein, mais oui, elle était dans un lycée artistique en Caroline du Nord, et après, elle a fait un stage d'été à la Juilliard School à New York pour se préparer justement à l'examen du Curtis Institute, qui est très difficile. Et voilà, elle se sentait vraiment archi prête et elle était persuadée jusqu'au bout d'avoir bien joué quoi les 4 morceaux qui étaient requis.
Gilles Leroy, pour cette émission, nous avons choisi de ne pas faire de fiction, car le sujet soulève trop de questions complexes par rapport à l'histoire des États-Unis, mais on va envisager des alternatives possibles. On peut par exemple dire que le Curtis Institute, c'était non seulement le rêve de Nina Simone, mais aussi de ses parents.
Oui, alors Nina Simone, elle s'est découvert à travers elle un fait assez étonnant, c'est qu'elle est symptomatique de la vie de beaucoup de musiciens de jazz, qui ont la plupart, c'est très étonnant, hein, qui ont tous un père pasteur en général, et qui découvrent la musique en fait à l'église toute petite, et un jour, elle a 2 ans et demi, ils sont chez eux, dans leur maison à côté de l'église, et elle s'installe à l'harmonium et elle joue. Elle joue comme ça de mémoire un morceau que sa mère jouait, et donc les parents tombent à genoux dans la cuisine en remerciant le ciel, en remerciant le Seigneur d'avoir apporté ce don à leur fille. Et tout de suite après, elle commence à 3 ans à jouer le piano, et à 6 ans, elle commencera la théorie musicale. C'est vrai que c'est un crack, quoi. Et lorsqu'elle entre plus tard au lycée d'Asheville, en Caroline du Nord, qui est un lycée donc où on étudie la musique, elle en ressort première de sa promotion. Donc c'est vrai que elle ne s'attendait pas du tout hein, à échouer au Curtis. Elle n'était pas programmée pour ça.
En tout cas, on peut dire si elle avait été acceptée au Curtis Institute, elle serait devenue une pianiste classique rangée.
On peut imaginer ça, oui. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce que les parents souhaitaient. Il faut savoir que pour les parents, le jazz, c'est la musique du diable, hein, c'est l'enfer. Donc, d'ailleurs, elle se cachera. C'est pas pour rien qu'elle prendra ce pseudonyme de Nina Simone, c'est pour que ses parents ne sachent pas qu'elle est devenue chanteuse et pianiste de jazz.
Qu'elle s'appelle
Eunice Kathleen Wayman, ouais. Et oui, donc, sa mère voulait qu'elle soit la première pianiste classique noire au monde, la première concertiste classique noire au monde. Et Nina a essayé d'épouser, enfin, de coller à ce rêve. Et il l'imaginait mariée à un chef d'orchestre, voilà. Donc, c'est toute autre vie dont elle rêvait et qui s'écroule le jour où on la rejette, ouais.
Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Love Me or Leave Me de Nina Simone. Gilles Leroy, on peut dire que la vie de Nina Simone aurait été bouleversée si elle avait été acceptée au Cursis Institute. Déjà, elle n'aurait pas chanté.
Oui, elle n'aurait pas chanté. Elle a découvert qu'elle chantait parce qu'elle a été obligée de travailler à Atlantic City dans un bouge, bien plus ça, comme c'était. Et donc, on l'a installée à un piano dans un boyau enfumé où il y avait que des hommes, bien sûr, qui buvaient beaucoup et qui fumaient beaucoup. Et voilà, elle est dans sa petite robe blanche, très ingénue, très naïve, et elle a joué du classique. Et au petit matin, le patron du bar est venu la voir en lui disant, Nina, tu es charmante, mais il faut chanter. Il faut chanter des chansons que les clients connaissent. Et c'est comme ça qu'en quelques jours, elle apprend tout un répertoire de variétés et de jazz qu'elle ne connaissait pas, en fait. Donc oui, on peut dire qu'elle a commencé à chanter. Elle a découvert qu'elle avait une voix, en fait, parce qu'on l'a rejetée. C'est assez paradoxal et étonnant comme destin.
Nous allons écouter Don't Smoke in Bed, qui est d'ailleurs une de vos chansons préférées, Gilles Leroy.
C'est vrai. C'est une de mes chansons préférées parce que c'est une chanson très très douce et très très nue comme ça. J'aime beaucoup quand Nina est au plus près comme ça de sa personne profonde, quoi. Et c'est une femme qui quitte son compagnon en lui disant de ne pas fumer au lit, de prendre soin de lui. C'est très joli.
I left a note on his dresser, and my old wedding ring with these few goodbye words. Goodbye, oh sleepy head. I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding.
Don't Smoke in Bed par Nina Simone. Gilles Leroy, imaginons que Nina Simone soit devenue une pianiste classique rangée. Est-ce qu'elle aurait été aussi engagée politiquement qu'elle a été en tant qu'icône du jazz?
Ah, c'est vraiment la question difficile à laquelle je ne peux pas répondre, et qui rendait d'ailleurs l'Uchronie un peu particulière, c'est que le racisme est tellement déterminant là que on peut que, oui, que se livrer à des conjectures. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même eu quelques musiciens classiques afro-américains à son époque. Et voilà, on les a peu vus hein, dans la lutte pour les droits civiques. Je crois qu'il y avait des questions de milieu aussi et peut-être d'autocensure. Le milieu de la musique classique étant un peu propice à une politisation, je crois, hein, et surtout à une rébellion, en tout cas à l'époque. Et non, c'est très difficile à dire. Par exemple, il y a eu en fait hein, des musiciens qui sont passés par le Curtis, notamment une jeune pianiste. Ce qui fait d'ailleurs penser que Nina Simone avait peut-être exagéré en pensant qu'elle était recalée pour sa couleur de peau. On le saura jamais finalement, hein, puisque de toute façon, ils n'ont pris qu'un élève noir par décennie. Hein, donc ça reste quand même une sorte de discrimination, qu'on le veuille ou non.
Gilles Leroy, en tout cas, contrairement à l'idée reçue, Nina Simone est une figure plutôt ambiguë de la lutte pour les droits civiques. D'ailleurs, à la fin, elle a même renoncé un petit peu à cette lutte.
En fait, c'est pas qu'elle a renoncé à la lutte, elle a été très triste et très amère de la façon dont elle avait été traitée par ses frères, comme elle disait. Elle s'est énormément engagée, elle a pris des risques même physiques, hein, parce qu'à l'époque, on risquait de se faire descendre, hein, tout simplement, lorsqu'on donnait des concerts sauvages contre le racisme. Et elle a beaucoup donné, et on lui avait promis que sa chanson « To be young, gifted and black », qui est une plus belle chanson, deviendrait l'hymne afro-américain. Et ses copains Black Panthers lui avaient promis, Bobby Seale et Huey Newton. Et finalement, ils n'ont pas tenu leur promesse. Et ça, elle leur a terriblement voulu. Elle a été terriblement vexée. Et donc, elle a coupé les ponts et est devenue, c'est vrai, assez ambiguë sur le tard avec tout ça. Oui, c'est vrai. Mais c'était plus du dépit hein, qu'autre chose.
To Be Young, Gifted and Black par Nina Simone. Gilles Leroy, il y a un dernier aspect de la vie de Nina Simone, c'est la solitude à la fin de sa vie. Dans votre livre Nina Simone Roman, vous montrez très bien que Nina s'identifiait à Maria Callas.
Oui, c'était Aïssa, elle l'a dit vraiment de nombreuses fois dans toutes les interviews qu'elle donnait dès qu'on lui tendait la perche, en fait. Elle disait qu'il y avait trois génies au XXe siècle. Il y avait Arthur Rubinstein, Maria Callas et elle.
En toute simplicité.
Et parfois, lorsqu'elle était de bonne humeur, elle ajoutait « Mais il y a aussi, je pense, David Bowie ». Voilà. Mais voilà, non, pour elle, Maria Callas, c'était sa sœur. Effectivement, je pense qu'elle s'identifiait à elle. Elle disait, on a des vies très semblables, on a travaillé très tôt, toute petite, et on n'a pas connu le bonheur amoureux, on a été très seuls. Voilà, donc elle s'identifiait totalement à Callas.
Et toutes les deux, d'ailleurs, ont terminé leur vie en France, dans la solitude.
C'est vrai, oui, dans une très très grande solitude, c'est vrai. Et dans l'impossibilité de trouver un compagnon, quoi, un compagnon durable, un homme qui les aime, voilà. Mais c'est vrai, dans une très grande solitude, et cette identification n'est pas absurde, hein. Peut-être que pour le jazz, Nina Simone représente effectivement l'équivalent de Maria Callas dans le chant au XXe siècle, quoi. Oui, c'est probable.
Alors on se fait un petit plaisir, on écoute « Mon cœur s'ouvre à ta voix » de Camille Saint-Saëns, par Maria Callas. L'orchestre de l'ORTF est dirigé par Georges Prêtre. « Cœur s'ouvre à ta voix » de Saint-Saëns, par Maria Callas. Gilles Leroy, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Vient l'heure de nous poser une question essentielle et un peu douloureuse. Est-ce que la vie de Nina Simone aurait été plus heureuse si elle avait réussi en tant que pianiste classique ?
Oui, c'est effectivement une question douloureuse, puisque ça soulève la tragédie un peu de son existence. Ce qu'il faut savoir, ne pas oublier, c'est que Nina Simone a quand même été diagnostiquée bipolaire plus tard. Et bon, c'est une maladie que l'on porte en soi. Et je ne suis pas certain que, quand même elle aurait été une pianiste classique, la maladie ne l'aurait pas rattrapée. Hein. Mais c'est sûr que l'environnement de music business, comme elle appelait le jazz, l'environnement était très perturbant pour quelqu'un de fragile. Elle dit, et ce n'est pas un mensonge, hein, qu'elle a été exploitée toute sa vie par des producteurs qui étaient des escrocs, qui la plumaient, hein, par des maris aussi, qui ont vraiment été des parasites, ses deux premiers maris. Donc oui, c'est sûr que ce milieu ne l'a pas épargné et a dû, je pense, oui, contribuer à sa maladie bipolaire, quoi. Et ça n'a pas dû arranger les choses, on va dire les choses, tout simplement, quoi. Et aussi le rythme de travail, parce que elle était quand même sur scène tous les soirs et parfois dans deux trois bars différents à ses débuts, hein. C'est-à-dire que c'était des nuits entières à jouer et à chanter. Donc il y a un épuisement aussi du corps que ne connaissent peut-être pas les pianistes classiques qui donnent moins de concerts par la force des choses.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'affirme des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dont ne plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas par Nina Simone. Pour tous ceux et toutes celles qui voudraient en savoir plus sur Nina Simone, lors de sa dernière période dans le Var, je ne saurais que trop vous conseiller le livre Nina Simone roman de Gilles Leroy, disponible en folio. Gilles Leroy, vous venez également de faire paraître un très émouvant Requiem pour la jeune amie chez votre éditeur Mercure de France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La semaine prochaine, nous nous demanderons « Et si Clara Schumann avait été un homme ?» Les Uchronies musicales, collaboration Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Olivier Dupré, une émission réalisée par Céline Parfenoff. Tout de suite, vous retrouvez Un été avec Louis Armstrong, avec Florian Royer.
À réécouter sur francemusique.fr.